France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Covid-19 sera bientôt reconnu comme maladie professionnelle. Le décret sera publié dans les prochaines heures, dans les prochains jours, selon le ministère de la Santé. Une reconnaissance qui sera automatique pour les soignants et pour les autres salariés. Il faudra démontrer que l'on a été infecté sur le lieu de travail. Un dispositif qui ne concernera que les personnes ayant subi une forme grave de la maladie. Actuellement, plus de 5000 patients sont hospitalisés à cause de ce Covid-19. 615 sont en réanimation. Sachez qu'hier, près de 10 000 cas de contamination ont été comptabilisés en France, un chiffre jamais atteint depuis le début du confinement, depuis même le début de l'épidémie dans le pays. Le taux de contamination parmi les personnes testées, lui, est multiplié par 12 par rapport au printemps dernier. Nicolas Martin vous expliquera tout cela avec Guillaume Erner tout à l'heure, un peu après 7h10 sur France Culture. Parmi ces nouveaux cas contaminés, il y a 23 étudiants de Sciences Po Reims. Par précaution, c'est donc tout le campus qui ferme jusqu'à la fin de semaine prochaine. La rentrée devait se faire sur place lundi, mais les 1300 étudiants reprendront donc finalement les cours en ligne. Enfin, pour tenter de freiner cette propagation, notez que le gouvernement promet de nouvelles décisions aujourd'hui à l'occasion d'un conseil de défense. De l'exigence et du réalisme, dit déjà Emmanuel Macron, qui se refuse à remettre le pays à l'arrêt et à créer la panique. Il s'oppose ainsi au conseil scientifique. Nous analyserons cela dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. Emmanuel Macron qui propose avec la chancelière allemande Angela Merkel que plusieurs pays européens accueillent des migrants mineurs du camp de Moria à Lesbos en Grèce. Un camp, je vous le rappelle, détruit par des incendies cette semaine. Il abritait plus de 12 000 demandeurs d'asile.
Émotion en dents de scie, hypersensibilité, impulsivité, la pathologie borderline concernerait 6% de la population. Ce trouble du comportement s'enracine dans un sentiment chronique de béance intérieure, la sensation d'être une coquille vide. Face au malaise, le border passe à l'acte. À la limite, la pathologie borderline, une conversation scientifique entre Étienne Klein, physicien, et Déborah Ducasse, psychiatre, ce samedi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez très nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui, ensemble, les médias de demain.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure du Monde Vivant, chronique de Bruno David, consacrée ce matin à la coquille Saint-Jacques.
Nous sommes en l'an de grâce 1248. La Sainte-Chapelle vient d'être consacrée en avril. Exténués, sales, mais heureux, les marcheurs découvrent le panorama de la Galice. Partis de Vézelay des semaines auparavant, ils ont parcouru ce très long chemin jusqu'à Compostelle, allant de bornes en bornes, de refuges en monastères. Ils portent une coquille accrochée à leur bâton ou à leur sac et vont chercher la rédemption dans la basilique qui honore celui qui fut l'un des 12 apôtres du Christ. La légende dit que les cendres de Jacques, car il s'agit bien de lui, auraient été ramenées jusque dans l'ouest de l'Espagne dans une coquille, Saint-Jacques bien sûr, tout un symbole. Il faut dire que la coquille de notre bivalve, Pecten Maximus, un vrai nom d'empereur romain, a tout pour séduire. Une forme élégante, une orbe quasi parfaite, une couleur orangée avec de légers dégradés, des côtes rayonnantes, deux valves qui s'emboîtent à la perfection. Je réserve l'intérieur pour un peu plus tard. Pas étonnant qu'avec de tels atouts, notre jolie Pecten ait suscité l'intérêt. La tendre Vénus de Botticelli n'émerge-t-elle pas d'une coquille Saint-Jacques? Mais bien avant la Renaissance italienne, elle s'est trouvée associée à des sépultures bretonnes du Néolithique, comme à Teviec dans le Morbihan. Elle était portée depuis l'Antiquité pour se protéger de la sorcellerie, des maladies et du mauvais sort. Elle est aussi symbole de chance, de purification spirituelle et de résurrection, d'où les cuves des fonts baptismaux en forme de coquille. Avec toutes ces connotations positives, notre coquille figure sur les armoiries de nombreuses villes. Paradoxalement, la plupart sont fort éloignées de la mer et des chemins de Compostelle, à l'image de celle de Château-Salins en Moselle, jusqu'à se retrouver symbole rutilant d'une compagnie pétrolière hollandaise. Mais notre porte-bonheur universel nous offre d'autres bienfaits. L'animal se déplace par bond. Les violents coups de ses valves, en se refermant, expulsent de l'eau. Il marche un peu à réaction, ce qui fait un bruit que les scientifiques curieux ont enregistré. Les valves claquent aussi lorsque l'animal se ventile, c'est-à-dire fait entrer l'eau de mer pour s'oxygéner. Or, si l'eau est chargée en algues toxiques, les coquilles ventilent davantage. Le bruit change. Ces braves coquilles Saint-Jacques nous alertent ainsi de la pollution marine. Il faut juste savoir les écouter. Autre intérêt, la coquille produit tous les jours une nouvelle strie de croissance. Chaque strie enregistre avec précision les conditions chimiques et physiques de l'endroit et du jour de sa fabrication. Les chercheurs d'aujourd'hui peuvent ainsi lire dans des coquilles sorties de l'eau il y a des siècles ou des millénaires par nos ancêtres, les climats ou les conditions environnementales du passé. La coquille est une machine à remonter le temps. À propos de temps, je n'ai pas eu celui d'évoquer la finesse gustative de la coquille Saint-Jacques, fleuron de la gastronomie. Je vous souhaite néanmoins une bonne dégustation.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel, c'est tous les matins à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible entre autres sur franceculture.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 septembre. Le 11 septembre, ça nous renvoie encore aux attentats du World Trade Center à New York en 2001. Et pour les plus âgés d'entre nous, au coup d'État contre le président Allende fomenté par Pinochet. Dans les deux cas, il s'agissait de la fin d'un monde, la fin d'un rêve, et il y a un peu d'écho de ces violences politiques dans la bande dessinée dont il va être question aujourd'hui. 14 juillet, édité par Casterman, c'est une histoire qui se passe dans la France traumatisée par les attentats de Charlie, et je reçois le scénariste Martin Kenéen et le dessinateur Bastien Vivès, aujourd'hui dans le Réveil culturel.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Bastien Vivès, bonjour Martin Kenéen.
Bonjour.
Les
bonjour.
Deux auteurs de 14 juillet, oui, sur le site de la bande dessinée, sont donc avec nous dans le Réveil culturel. Alors c'est le fait d'avoir un enfant, d'avoir dépassé le cap de la trentaine, Bastien Vivès, qui vous rend plus sensible au sujet d'actualité ?
Non, pas forcément, parce que j'ai commencé la BD, je faisais le premier découpage alors que pendant qu'on ma femme accouchait. Donc voilà, enfin j'étais à côté d'elle et on attendait avec les contractions et puis moi j'avais les feuilles et puis je faisais le découpage. Donc on avait déjà l'idée avant, ça en était déjà parlé avant. Donc c'est pas forcément la paternité qui m'a dit tout d'un coup ah il faut que je m'intéresse au monde.
Le monde d'aujourd'hui.
Le monde d'aujourd'hui qui m'entoure.
Et surtout, le monde traumatisant d'aujourd'hui, parce que tous les personnages de cette bande dessinée, ça va être très dur d'ailleurs de résumer l'histoire, parce que c'est un thriller, et qu'on n'a pas envie de dévoiler justement l'intrigue, mais ça se passe quelque part en France, une France, disons, rurale, ça se passe en Isère, ça tourne autour d'un gendarme et de quelques personnes venues ici pour oublier un traumatisme lié aux attentats.
Bah c'est l'exode quoi, c'est Martin qui est venu avec cette idée.
Martin Kenéen
qui est venu avec cette idée.
Faut-il le présenter sur les ondes de France Culture, lui
tout le connaît, tout le monde le connaît.
Lui qui a été longtemps mon collègue et qui a décidé d'aborder une nouvelle vie, une vie de scénariste. Martin Kenéen, d'où est partie cette idée ?
Il y a une conjonction de phénomènes, il y a à la fois la France post-attentat, même si on est toujours dans cette inquiétude-là aujourd'hui, et c'est sans doute pour ça aussi que ça nous a accompagnés, Bastien et moi, c'est l'année 2015, avec les attentats de l'année 2015, évidemment, qui, je pense, nous a tous marqués, chacun à sa manière. Il y avait aussi la montée de l'extrême droite, avec les élections de 2017, qui étaient très présentes, et donc une question diffuse, qui était de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. La tentation de l'exil ou de l'exode, ça renvoyait en effet, comme le disait Bastien à l'instant, à peut-être, ça a résonné en moi, en tout cas, avec des choses que j'avais lues, à propos propos de l'exode en 40 où un certain nombre de Françaises et de Français avaient pris la route en espérant trouver un lieu sûr. Et là, il s'agit évidemment d'un tout autre contexte, d'une toute autre époque. Mais il y a cette tentation-là pour nos deux Parisiens qui sont Vincent, artiste peintre, et sa fille Lisa, adolescente, qui décident de partir vers un lieu un peu fantasmé, une France un peu fantasmée où ils seraient à l'abri du traumatisme, du choc qu'ils ont vécu de plein fouet, puisque voilà, la femme de Vincent est morte dans un attentat, comme on l'apprend assez tôt dans le récit. Donc c'était de partir de ce choc-là et de savoir comment est-ce qu'on pouvait réagir. Et quand je suis allé voir Bastien avec cette idée-là, où il rencontrait un gendarme, Bastien tout de suite s'est emparé du gendarme.
Et le gendarme, qui s'appelle Jimmy, lui-même sort d'un traumatisme, puisque quand la bande dessinée s'ouvre, elle s'ouvre sur son deuil, sur l'impossible deuil de Jimmy qui vient vraiment très en retard enterrer son père.
Ouais, je pense qu'elle est très compliquée, cette époque, pour les gens qui ont envie d'être utiles et de sauver d'autres gens, quoi. Enfin, comment tous les flics et les gendarmes, quand on les entend, quand ils parlent des attentats, ben, ils peuvent arriver à en empêcher, mais c'est très compliqué, là, avec le mode opératoire qu'ils ont. Enfin, tu sais, cette idée de flagrant délit, de pouvoir les arrêter à ce moment-là, elle y arrive pas. Et Jimmy, on commence avec, ben, il se dit, bon, mon père, il était à 5 minutes, j'aurais pu le porter, j'aurais pu l'amener à l'hôpital. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dit, bah, les mecs.
Même s'il n'est pas du tout victime de terrorisme, le père du
Jimmy. Non, du tout. Non, non, il meurt comme ça, mais c'est toujours cette idée. Moi, j'ai toujours été impressionné, enfin, marqué par. Il y a des gens qui ont envie de sauver d'autres gens, enfin, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie de faire ça. Et comment agir, c'est absolument impossible, quoi. Tant que l'attentat s'est pas produit, on peut sauver personne d'un attentat, quoi, d'une certaine manière. Et ouais, c'est là où la BD ne parle que de ça, quoi.
Voilà. Et vous décrivez très bien ce personnage de la bande dessinée 14 juillet. Alors 14 juillet, c'est parce qu'il va se passer quelque chose pendant la fête nationale. On imagine que ça va être un attentat. Bien Est-ce sûr. Que ce Jimmy, ce jeune gendarme, va réussir à détourner l'attentat? Eh ben, c'est pas ça la question de la bande dessinée. La vraie question, c'est que cet homme, ce jeune homme, est obsédé par l'envie de détourner un attentat, d'être utile.
Ouais, il y a des choses qui nous ont, moi déjà, si je repense, janvier 2015 à Charlie Hebdo, c'est peut-être à ce moment-là, peut-être que j'ai commencé à ouvrir les yeux en me disant, je crois que j'ai besoin de comprendre un peu dans le monde dans lequel on vit. Ça a été très dur parce que pour la première fois on tuait des dessinateurs, donc ça me touchait d'une certaine manière. Et puis je me disais, merde, il y a un petit changement là qui est en train de se passer, et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et l'autre fait qui aussi beaucoup m'a beaucoup marqué, c'est le gendarme Beltrame qui va donner sa vie pour sauver un otage. Et je me demande à quel point, est-ce que son geste, s'il n'y a pas les attentats de Charlie avant, est-ce qu'il le fait ou pas, quoi? Est-ce que cette volonté d'essayer de sauver la France, de sauver quelque chose, est-ce que c'est cette volonté même de se croire d'être un héros? Je pense qu'il y a des questionnements aujourd'hui, quoi. Les gens, est-ce qu'il y a un endroit entre vous n'aurez pas ma haine et il faut se venger, il faut tous se tuer, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut être au milieu? Je sais pas. C'est un peu ça les motivations du bouquin.
Comment vous avez travaillé ensemble, Martin Kenéen et Bastien Vivès?
C'est un mélange de séances de travail à la Marcel Pagnol, à la terrasse des cafés. Et puis, c'est un mélange de travail à la Matrix, je dirais, où on échangeait des informations par Dropbox interposée, donc messagerie instantanée, ouais. Internet d'aujourd'hui, on peut échanger des gros fichiers comme des belles planches dessinées à la tablette graphique par Bastien. Donc voilà, on est à l'intersection de Pagnol et...
C'est votre premier scénario, Martin Kenéen.
Ouais.
Alors, comment on écrit un scénario de bande dessinée? Est-ce que Bastien Vivès était aussi là pour vous guider sur comment écrire une bande dessinée?
Il était surtout là pour tout déconstruire, tout foutre par terre, tout recommencer.
Donc, pour vous aider, quoi.
J'ai foutu un gros bordel. Ouais. Mais après, ça m'est retombé quand même sur les mains parce que ça m'est retombé dessus parce que j'ai jeté une centaine de pages sur ce bouquin parce que...
Il avait écrit un roman, c'est ça ce que vous voulez dire? Plutôt qu'un scénario de bande dessinée?
Il n'avait pas forcément écrit un roman, c'est que lui avait un certain axe et au fur et à mesure, on s'est un peu mis d'accord tacitement tous les deux, j'ai l'impression, sur le fait que cette BD allait évoluer parce que au fil du temps, même l'actualité, même notre réflexion, se précisait de plus en plus. On a commencé la BD, je pense pas qu'on avait la même, en fait, une fois la BD terminée, on a continué de travailler pendant plus de 6 mois encore dessus, quoi. Et on a jeté des planches, on a refait des planches, on s'est redit, parce que tout d'un coup, on allait, un peu comme une thèse ou n'importe quoi, on fouille, et puis on se dit, non, ça, en fait, on est peut-être passé à côté de ça. Est-ce que c'est à nous de donner une réponse? Est-ce que c'est au lecteur de trouver ce qu'il y a à trouver? Bref, en gros, on a fouillé. Ce qui est très intéressant, je pense, mais en termes de méthode de travail, c'est impossible, quoi. C'est genre, c'est, enfin, pour un dessinateur, c'est impossible.
Un trauma pour Bastien.
Parce qu'en tout, j'ai dessiné 400 pages, c'est pas possible.
Qui a eu l'idée de représenter Michel Houellebecq et d'utiliser le physique de Michel Houellebecq?
Alors, c'est pas une caricature Astérix, faut pas déconner non plus.
C'est Michel Houellebecq. Tout le monde reconnaîtra Michel Houellebecq.
J'ai gardé un peu parce que je trouvais que c'était, il incarnait physiquement quelque chose qui pour moi était important. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Je trouve qu'il est incroyable dans les films dans lesquels il joue.
C'est un écrivain que vous aimez en tant qu'acteur et que vous transformez en peintre dans votre bande dessinée.
Exactement. Voilà. Non, et je trouve que il a un vrai rôle d'artiste aujourd'hui et très intéressant. Et c'est pas juste un polémiste ou je sais pas quoi. N'importe quoi. C'est vraiment, il a vraiment un rôle d'artiste et je trouvais ça important de l'avoir en tant que Vincent parce qu'il y a notre personnage passe par plusieurs phases et dont une où il est complètement dépressif et il ressemble à un enfant qui a perdu sa maman et qui triste comme les blés. Et puis tout d'un coup, il a une espèce de regain en disant bah non, mais en fait, le deuil, je vais le faire, il n'y a pas de problème, je suis à la campagne, tout va bien. Et il y a ces montagnes russes qui, je trouve, correspondent bien à l'idée que je me fais romantique d'un Michel Houellebecq. Alors que je sais que je ne le connais pas personnellement, donc je n'imagine pas. Mais je trouve que physiquement, il y a quelque chose.
C'est ce qui est assez fascinant aussi, ouais, quand on arrive, comme moi, dans la peau du scénariste, auprès d'un dessinateur comme Bastien, c'est que tout de suite, il va s'imaginer les personnages et lui, il va leur donner des gueules. Tout de suite, lui, il voit des visages, alors que moi, peut-être, je vois des caractères, des corps, des situations. Tout de suite, avec Bastien, ça a été les tout débuts de notre conversation. Ça a été aussi qu'il a pris plaisir, je crois, tu t'es emparé, Bastien, des personnages. Et il a commencé à faire des croquis, à faire des essais. C'est presque comme ça qu'il a commencé à dessiner 14 juillet. Et donc, le Michel Houellebecq, c'était une idée de départ. Je crois que c'était une intuition, c'était une impulsion. Et il a très vite évolué. Et donc, dans les premières planches, il a un peu quelque chose de Michel Houellebecq. Et rapidement, il prend son autonomie et même il mute physiquement. Mais
et puis c'est quand même, au niveau du physique, c'est l'extrême inverse de notre gendarme qui est bodybuildé, presque un américain, quoi.
Mais c'est ça qui est audacieux et complètement réussi dans cette bande dessinée. C'est d'une part, vous intégrez Michel Houellebecq dans la peau d'un personnage de fiction, mais on le reconnaît. Et le gendarme, effectivement, nous fait rappeler, le tram. C'est-à-dire comme si les deux personnages clés de cette période, c'est-à-dire l'intellectuel qui s'est exposé, qui a écrit plusieurs écrits autour de ces attentats, de cette époque, de cette France d'aujourd'hui, avaient leur place dans cette chronique.
Puis même, il y a un truc, moi je suis beaucoup les intuitions, parce que il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans le bouquin, et c'est peut-être dans un an, deux ans, trois ans, où je me rendrai compte, ah bah tiens, j'avais mis ça à ce moment-là, où on avait mis ça, on avait écrit ça, donc il faut vraiment suivre les intuitions. Et tout d'un coup, Michel Houellebecq, juste ce physique de départ pour travailler, ça me plaisait, et puis même quand on pense que Soumission est sorti le jour des attentats chez Charlie et tout ça, donc c'était, il incarne cette époque, donc c'était important de, même pour moi, de le mettre dedans, mais même si il a pas un t-shirt marqué Michel Houellebecq, quoi.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Avec Bastien Vivest et Martin Kuhnen pour leur bande dessinée, édité chez Casterman, 14 juillet. Donc, on en a parlé en début d'émission, c'est une bande dessinée qui parle de la France d'aujourd'hui. Une France marquée, traumatisée par les attentats terroristes. S'il fallait parler maintenant des personnages, ou l'art de ne surtout pas raconter l'histoire, parce qu'on peut pas raconter justement cette histoire, comment on travaille sur un personnage comme celui de Jimmy, le jeune gendarme ? Martin Kuhnen, vous qui êtes le scénariste.
On arrive tout de suite avec un personnage ambigu, trouble, qui a l'air d'être méchant au départ, parce qu'il a tous les oripeaux du méchant, c'est-à-dire que il y a cette famille endeuillée, ce père Vincent, sa fille Elisa, qui sont un peu les victimes, et il tombe sur un mec tout de suite en uniforme, qui est caché derrière ses lunettes noires, qui ont quelque chose d'assez menaçant, qui plus est aujourd'hui, où l'actualité nous a rattrapés, où le discours sur la police et les forces de l'ordre, donc les gendarmes également, a changé, est beaucoup plus accusateur. Et ce qui nous a plu tout de suite, c'est de lui donner toute cette ambiguïté. C'est-à-dire que il peut avoir l'air menaçant, et en réalité, on sait d'emblée aussi qu'il est fragile, qu'il est affecté, qu'il est sensible sous son armure. Et donc, je crois qu'on a joué avec Bastien à mettre au cœur du récit ce personnage. Ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que l'actualité nous a rattrapés aussi en mettant sur le devant de la scène médiatique et donc des préoccupations des Françaises et des Français, eh ben, un certain nombre de Françaises et de Français qui ne vivent pas à Paris, qui ne font pas partie des plus riches ou des plus influents, comme ce gendarme qui est personne d'une certaine manière. Et il est personne comme Ulysse aussi et personne dans l'Odyssée. C'est-à-dire que il va aussi d'épreuve d'obstacle en obstacle, il court après cette menace d'attentat qu'il entend déjouer, peut-être d'une façon un peu toute much, peut-être parano, on ne sait pas.
Peut-être par ambition, parce qu'on voit que c'est aussi un jeune homme très ambitieux. Il a envie de réussir, il a envie de gravir les échelons.
Je sais pas s'il a forcément envie il a surtout envie de fuir, c'est ça vraiment le truc. Il est pris en étau entre deux nanas,
qu'il fuit d'une manière.
Qu'il fuit complètement.
D'une manière très ambiguë, là, d'ailleurs, vous restez très.
Bien sûr. Mais en fait, et ça, c'est quand même un peu le modus, c'est ce qui motive souvent le passage à l'acte, que ce soit terroriste ou autre. C'est toujours ce rapport qu'il y a avec la fuite, quoi, avec l'idée de, je sais pas, Beltrame, il devait se marier 15 jours après. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses qui, en gros, c'est toujours, c'est Martin qui le dit normalement à chaque fois, là, mais
à la phrase de la citation de Lacan, ouais, qui dit que les mecs préfèrent partir à la guerre pour échapper à leur bonne femme. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que justement, c'est assez jouissif d'avoir fait cette BD à deux avec Bastien, Vives. C'est donc on a travaillé à deux cerveaux et donc avec des représentations parfois opposées. Bastien, toi, tu parles à l'instant du fait que tu as vu que notre personnage était dans une forme de fuite, ce Jimmy, ce jeune gendarme, qui cherche à tout craint à arrêter un attentat. Et moi, au contraire, au départ, je l'ai conçu comme un mec très enraciné avec l'idée de la France, des enracinés, tout ce délire-là politique qui a existé et qui existe encore, avec un personnage qui est dans un territoire, qui est ce territoire de montagne magnifique, où il veut sauver le territoire. Il est sensible à la beauté des paysages, et c'est pour ça qu'il va se rapprocher aussi de ce peintre.
Et il est tout à la fois coupable des pires citations racistes de cette bande dessinée, et capable du meilleur. Il est très
très humaniste. Il dit pas de choses racistes, attention.
C'est ses collègues.
Il est entouré de collègues.
J'aime bien l'idée qu'on arrive. Moi, j'ai passé mon temps à vendre des bouquins où il y avait des nanas à moitié à poil sur 120 pages. Et là, tu dis, voilà, vous allez vous taper un gendarme sur 250 pages. Bah, il faut le vouloir, quand même. Et tout l'enjeu de la bande dessinée, c'est d'arriver à faire entrer les gens dans cette histoire et qu'ils commencent à comprendre que la vérité va pas forcément être éclairée à gros coups de projecteur et il va falloir faire un avis là-dessus, si est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les agissements de ce gendarme ou avec les agissements du peintre, et puis se poser des questions et se positionner par rapport à ça. Et ça,
ouais, nous, on avait une envie de fiction, c'est-à-dire que on n'avait pas envie de donner des réponses, d'apporter un petit manuel pour comprendre la situation et pour savoir comment réagir en cas de menace.
Ou de distribuer des bons et des mauvais points.
Exactement.
Voilà, on avait envie de faire un thriller, de faire un polar. Ouais. Moi, ce qui m'est venu sur le tard, c'est que plutôt que Michel Houellebecq et Beltrame, c'était Madame Bovary, notre gendarme, en fait. C'était Madame Bovary avec un flingue. Et donc, il y avait quelque chose, je crois, il y a quelque chose d'ailleurs dans l'approche en général de Bastien, mais qui pour moi se retrouve à sa façon dans 14 juillet, qui est cette forme de naturalisme, au sens où on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans le romantisme échevelé non plus, on est dans quelque chose de très près de l'extrême sensibilité à la vie quotidienne, aux petites choses de la vie. Claude Sautet est pas loin non plus, et donc voilà, il y avait ce plaisir là aussi de raconter une histoire où c'est aussi peut-être une histoire de femme, ce Jimmy.
Martin Kenen vient de parler de l'ultime référence cinématographique de Bastien Vives.
Il faut pas me lancer là-dessus.
Non, mais est-ce que le découpage, pour vous, vous le concevez comme un découpage pour un film?
Le découpage qu'on a l'habitude de voir autour des films, les storyboards, c'est souvent assez décevant parce que c'est très efficace, mais c'est qu'un ersatz de cinéma. Quand on connaît la séquence qui est représentée en storyboard, c'est pas le même goût parce qu'il n'y a pas la vie qu'il y a dans l'image.
C'est un mode d'emploi pour le cinéma.
Voilà, c'est une sorte de mode d'emploi. Alors que ce que j'adore chez Bastien, et c'est pas pour rien que
Bastien Vives, quand il est sous influence de Sautet.
Ouais. Voilà, non, c'est que les planches, et par exemple dans 14 juillet, dans cette bande dessinée, C'est plus que de la représentation, des actions, des scènes, même les scènes, on parle des scènes muettes, les scènes de course-poursuite dans la cité, les scènes dans les paysages grandioses. C'est à la fois rendre hommage à tous ces paysages de la France d'aujourd'hui, parce que c'est aussi en filigrane le projet de la bande dessinée, de parler de la France d'aujourd'hui, donc la France des cités, la France des campagnes, etc. Et puis ça va même jusqu'à l'abstraction. C'est ça que je trouve assez extraordinaire dans l'art de Bastien de mettre en page. Je vais me mettre à pleurer. C'est trop beau. Mais il y a vraiment ce plaisir-là, pour moi, juste de lecteur, de découvrir comment il choisit de représenter une scène. C'est pas uniquement de la pure efficacité, c'est de l'efficacité et de la beauté graphique.
La beauté des paysages, le lieu, ça venait pas de vous, scénariste Martin Kenney.
C'est entièrement de ma faute. Le territoire, les paysages, les propositions, je l'ai abreuvé d'images.
Les photos.
Mais donc, après, ce qu'il en a fait, comment il a choisi de déconstruire, il y a une séquence qui se passe, on peut le dire, dans la cité dite de l'Arlequin, entre Échirolles et Grenoble, qui est une de ces utopies des années 70, qui est devenue une sorte de dystopie aujourd'hui à cause des trafics, de la déshérence sociale. Et ben ces façades là, voilà, il en fait du Mondrian. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de ça dans l'art de la représentation.
Non, mais c'est vrai, ce truc de ce côté labyrinthe, quoi. Moi, j'aime bien que c'est un personnage qui va rentrer. Il habite juste à côté d'une cité dans son village, le gendarme, et puis il va rentrer en cette cité. Et une fois qu'il a réussi à rentrer dans le hall pour sortir, c'est des trappes, des portes, et qu'il arrive dans un bâtiment et il dit bah ils se ressemblent tous, ces putains de bâtiments, il y a trois fois le même bâtiment, et donc comment est-ce que tu veux arriver à savoir où est-ce que t'as garé ta bagnole, quoi. Donc c'est ça qui me plaisait, et en plus là, toute la scène se passe de nuit, et c'est là où c'était très intéressant à découper là.
Et puis c'était l'enjeu narratif aussi d'envoyer des Français à la rencontre d'autres Français qui se connaissent pas, qui aujourd'hui s'ignorent, et donc d'envoyer ce gendarme dans un endroit qu'il connaît pas, faire des choses qu'il connaît pas, et est-ce qu'il va s'en sortir.
Et puis enfin, pour terminer cette émission, la dernière fois que vous étiez ensemble, Bastien Vivès, ou que je vous ai vu ensemble, Bastien Vivès et Martin Kenney, c'était autour d'un projet autour de Jeanne d'Arc. Oui. On se souvient de cette grande traversée d'été qu'avait fait Martin Kenney pour France Culture autour de Jeanne d'Arc. Comment on dérive de Jeanne d'Arc à la France d'aujourd'hui, marquée par les terroristes?
Le Front National, c'est ce qui est tout ça. Non, bien sûr que non. Comment est-ce qu'on arrive de Jeanne d'Arc?
Votre projet au début, hein.
En fait, c'était juste que Martin était venu m'interviewer pour il cherchait un dessinateur pour représenter Jeanne d'Arc aujourd'hui. C'était ça à peu près.
Oui, interroger Bastien sur sa façon de voir un personnage comme Jeanne d'Arc, lui qui est habitué à représenter des femmes fortes, parfois des femmes en armure.
Exactement. Et puis surtout aujourd'hui, s'il y a bien un truc, même dans la bande dessinée, on est confronté au cinéma, on passe que ça, c'est que cette espèce de féminisme héroïque qui est sorti à la soupe, qui est en menu maxi best-of de tout ce que vous voulez, là on nous sort tout, là vraiment ils refont toute l'histoire et tout, il y a pas de problème, et là c'était l'idée de est-ce que Jeanne d'Arc ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression que Jeanne d'Arc avant c'était, on disait c'était la femme forte qui a libéré de machin ça, mais aujourd'hui t'as l'impression qu'il y a des Jeanne d'Arc partout, j'en sais rien.
Mais
donc
Jimmy
en fait
est une sorte de Jeanne d'Arc.
Jimmy est une sorte de Jeanne d'Arc.
Mais vous avez bien un projet d'adapter Jeanne d'Arc en bande dessinée ou pas?
Non, du tout.
C'était une manière de perdre le journaliste qui essayait de vous tirer les nerfs du nez.
Oui, c'est ça.
Et pour arriver avec 14 juillet, cette bande dessinée.
Exactement.
Éditée chez. Bien joué.
Merci.
Merci, Toufi.
Le réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et pour avoir une idée de cette bande dessinée 14 juillet de Bastien Vivès et Martin Kenney, deux planches de cette bande dessinée sont disponibles à la page du Réveil Culturel. Merci, on se retrouve lundi. D'ici là, bon vendredi, bon week-end avec ou sans France Culture.
L'esprit d'ouverture.
Le 2 mai 1980, le jeune journaliste Edoui Plenel, débauché du Matin de Paris, arrive à la rédaction du Monde. 15 ans de très grand bonheur, dit-il, d'abord à la rubrique éducation, puis police. Il enchaîne les enquêtes et révèle à 33 ans l'affaire du Rainbow Warrior. Raconter le parcours d'Edoui Plenel, c'est aussi raconter l'histoire d'un succès journalistique, celui du site en ligne Mediapart. À voix nue, Edoui Plenel, cette semaine à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente Un soupçon d'amour, un film de Paul Vecchiali. Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète Andromaque, avec pour partenaire son mari. Mais elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage. Un jour, elle décide de quitter la pièce et de céder son rôle à son amie Isabelle, qui est aussi la maîtresse de son époux. Quel secret cache Geneviève Garland ? Un soupçon d'amour, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron promet des décisions aujourd'hui sur la gestion de la crise sanitaire pour donner, dit-il, de la visibilité sur les prochaines semaines. Un conseil de défense se réunit en fin de matinée en pleine confrontation avec le conseil scientifique, vous le comprendrez. Pendant ce temps, syndicats et patronats réfléchiront à un moyen de télétravailler en règle. Les discussions débutent, mais les entreprises ont déjà pris les devants. État des lieux dans un instant. Dans cette édition aussi, les pays de l'Union européenne en bord de Méditerranée qui agitent tout doucement la menace de sanctions contre la Turquie. Et puis, les militaires français qui rêvent d'espace. Changement de logo d'ailleurs, ce sera désormais l'armée de l'air et de l'espace. Sur quelle base vont se jouer les négociations pour un accord sur le télétravail ? Patronat et syndicats se retrouvent aujourd'hui en visioconférence. En attendant, certaines entreprises ont déjà pris les devants, souvent avec des chartes d'entreprise. Car le port obligatoire du masque a joué un accélérateur dans le télétravail, Anne-Laure Jumet.
Les entreprises sont aujourd'hui sommées d'évoluer sur le sujet. La pression des salariés est forte, analyse-t-on à l'Association des directeurs des ressources humaines. Et certains managers se sont dit, après l'expérience du confinement, que le télétravail présentait après tout aussi des avantages. Rares sont toutefois les sociétés à avoir déjà signé des accords post-confinement. Parmi elles, la mutuelle MGEN, 90 jours de télétravail à prendre dans l'année avec une présence de 2 jours minimum par semaine. Accord signé également à la MAIF, permettant de généraliser le télétravail en supprimant notamment le critère d'ancienneté. Les salariés des agences pourront aussi travailler à distance dans le cadre d'une expérimentation. L'expérimentation, c'est le choix fait par le groupe automobile PSA pour tester son nouveau modèle en France et dans le monde. 70% de télétravail et 30% de présence au bureau pour les activités qui ne sont pas directement liées à la production. Mais les discussions avec les syndicats se passent difficilement. La CFDT dénonce un télétravail à marche forcée. À la Société Générale, on a aussi entamé des discussions en attendant un éventuel accord. La règle définie pour les services centraux est la suivante. Chaque jour, 50% des effectifs en télétravail et 50% sur site. Et pour que ce soit bien clair, la moitié des bureaux est condamnée. À l'avenir, la question des mètres carrés utiles est d'ailleurs posée et les entreprises ne vont pas tarder à y répondre, d'autant qu'il y a là des économies à réaliser.
Sur le plan sanitaire maintenant, c'est aujourd'hui qu'un tournant pourrait être pris. En tout cas, Emmanuel Macron réunit un conseil de défense et il promet des décisions pour les semaines à venir. Avant-hier, le président du conseil scientifique, immunologue Jean-François Delfraissy, estimait que le gouvernement devrait prendre des décisions difficiles. Chacun doit rester à sa place. C'est aux dirigeants démocratiquement élus de prendre des décisions, a répondu sèchement le chef de l'État. Étrange, analyse le philosophe Pierre Musso, docteur en sciences politiques. Il était l'invité du journal de Stanislas Vazak à 22h hier soir sur France Culture.
Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il existe depuis le XVIIIe siècle, en France, une Académie nationale de médecine dont le texte, qui a exactement 2 siècles, une ordonnance de 1820, définit la mission. Je vous cite l'article, il est très court. « Cette académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et principalement les épidémies. » Donc il y a une Académie nationale de médecine, il y a une Académie des sciences, et d'ailleurs l'Académie de médecine ne cesse de publier des recommandations, mais tout le regard a été porté et réduit, je dirais, à ce conseil scientifique, pour moi, c'est très clair. On a des institutions dont c'est la mission première. Donc, je pense que c'est une erreur et que ça correspond à cette idée de démocratie des experts du président Macron. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il le dit explicitement, vous n'avez qu'un rôle technique. Il répond au professeur Delfrécy, vous n'avez qu'un rôle technique, nous, on est le politique. Bon, alors que jusqu'à présent, il était érigé, ce conseil, en conseil scientifique avec un grand S, comme je le disais. Ça interroge beaucoup sur la différence entre la science et le politique.
À l'heure de ces questionnements, les décisions d'Emmanuel Macron sont donc attendues aujourd'hui. Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, il y a l'abaissement de la période de quarantaine de 14 à 7 jours d'isolement. Côté chiffres maintenant, l'agence Santé publique France a compté plus de 9800 nouvelles contaminations dues au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures. Un chiffre sans précédent depuis le début de l'épidémie dans le pays, près de 10 000 contaminations en une journée. La part de positifs parmi les tests effectués est 12 fois plus importante qu'au printemps dernier. Le nombre de nouvelles hospitalisations, lui, est en hausse aussi de près d'un tiers sur les trois derniers jours. Analyse complète de tous ces chiffres avec notre spécialiste Nicolas Martin à 7h12 tout à l'heure. Ce sera le cas toutes les semaines d'ailleurs désormais, le vendredi matin sur France Culture. Exit Gilles Legendre, c'est Christophe Castaner qui prend le poste de président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Les marcheurs ont voté hier, 55% pour l'ancien ministre contre 45% pour Aurore Berger, députée des Yvelines. Le travail commence donc pour Christophe Castaner, élu, qui devrait enrayer l'interminable vague des départs des députés Rosalie Lafarge.
Plus d'une trentaine de défections en trois ans, c'est beaucoup, c'est trop pour ceux qui restent, mais c'est fini, se persuade Jean-Baptiste Moreau. Pour le porte-parole du groupe, il n'y aura pas d'autre départ.
Oh, je crois pas, non. Franchement, il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas, de toute façon.
Les sensibilités sont diverses au sein du groupe, ce n'est pas nouveau, mais ça se sent de plus en plus. Alors les cadres s'attachent à prôner l'unité, le patron du mouvement Stanislas Guérini.
On a besoin d'être rassemblés pour pouvoir parler aux Français. À chaque fois que nous avons été divisés, on s'est rendu compte qu'on ne parlait qu'à nous-mêmes.
Chantier numéro 1, mettre fin aux divisions en interne. Chantier numéro 1 bis, apaiser les relations avec les partenaires de la majorité, mais sans se renier, insiste déjà le nouveau président du groupe, Christophe Castaner.
Le Modem et le groupe AGR sont des alliés. Nous devons dialoguer sans cesse. Nous devons réaffirmer aussi, peut-être même surtout, notre leadership. Nous sommes le groupe central de la majorité. Et nous n'en avons pas honte.
Les marcheurs n'ont surtout plus envie de voir partir les leurs pour le Modem comme ces derniers jours. Et pour l'autre porte-parole, Pierre-Alexandre Anglade, cela passe par un changement de façon de faire.
Il y a le besoin de trouver une meilleure méthode de travail. C'est évident qu'il y a pu avoir quelques frictions ces dernières semaines. Mais en réalité, elles sont largement inférieures à ce qui nous rassemble et ce qui est le projet que l'on porte pour le pays. Donc il va y avoir un rassemblement des chefs de la majorité dans les semaines à venir pour mieux coordonner le travail ensemble. Et je suis certain que ce à quoi on a pu assister ces derniers jours ne se passera plus.
D'autres se montrent plus prudents et prédisent de nouveaux départs dans les semaines qui viennent. L'élection de Christophe Castaner, étiquetée exécutif, a du mal à passer auprès de ceux qui plaidaient pour plus d'autonomie par rapport au gouvernement.
Rosalie Lafarge. La question des sanctions contre la Turquie a surgi à l'issue de la réunion des pays méditerranéens d'Europe hier. Une réunion qui se tenait en Corse et qui s'est terminée sur une déclaration commune. Une déclaration pourtant mesurée qui tranche avec les vifs échanges de ces derniers jours entre Paris et Ankara. Il y a une explication à cela, Bertrand Galichet.
À deux semaines du sommet de Bruxelles qui doit débattre des tensions avec la Turquie, la France et les autres pays méditerranéens de l'Union européenne brandissent la menace de sanctions, mais en dernier recours. Après ces propos offensifs contre Recep Tayyip Erdogan, qui ont suscité une réplique virulente à Ankara, Emmanuel Macron a semblé calmer le jeu hier soir.
Nous avons eu sans ambiguïté un message de soutien à l'égard de la Grèce et de Chypre. Face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'États européens. Mais nous avons aussi collectivement réaffirmé une volonté de réengager un dialogue responsable et de trouver les voies de l'équilibre dans toute la région.
Un dialogue sans naïveté mais de bonne foi, selon le président Macron. Sur ce dossier turc qui préoccupe l'Élysée, il a obtenu un appui assez prudent de ses partenaires du Med7. Seule la Grèce et Chypre, en première ligne face aux visées de la Turquie en Méditerranée orientale, se montrent beaucoup plus déterminées et pointent les risques de déstabilisation de l'ensemble de la région.
L'aide humanitaire apportée par la Croix-Rouge à Beyrouth sera fortement perturbée ces prochains jours. 5 semaines après la double explosion meurtrière dans le port de la capitale libanaise, un énorme incendie s'est déclaré au même endroit hier. appelez-la désormais l'armée de l'air et de l'espace. Dernière étape symbolique actée cet après-midi par la ministre des Armées, Florence Parly, qui va dévoiler le nouveau logo de cette armée de l'air et de l'espace. Une preuve de plus que l'espace est devenu stratégique pour les militaires, Nathalie Hernandez.
Tout comme vous utilisez les communications satellites pour téléphoner ou payer en carte bancaire, les militaires, eux aussi, utilisent pour leurs opérations ces mêmes moyens dans l'espace, que ce soit pour guider et renseigner un avion de chasse, un sous-marin ou encore une patrouille en plein désert du Sahel. Conséquence, les dépenses pour investir l'espace n'ont cessé d'augmenter, explique le général Michel Friedling à la tête du commandement de l'espace.
En 10 ans, le paysage spatial a totalement changé. Le montant global des dépenses a été multiplié par 2, passant de 36 milliards de dollars à plus de 80 milliards de dollars. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que la Chine a multiplié par 8 ses investissements et le nombre de ses lancements annuels par 3.
Aujourd'hui, plus de 70 pays ont un satellite dans l'espace. Il va donc falloir se protéger de toutes sortes de menaces.
Ça va de la menace cyber à la menace de destruction totale avec des missiles. Et au milieu de tout ça, vous avez des menaces de brouillage, d'espionnage, vous avez des satellites espions, vous avez des satellites kamikazes, vous avez des satellites qui peuvent venir avec des bras articulés pour arracher un élément d'un autre satellite et puis le rendre, le tuer en fait. Hein, voilà.
La clé étant la surveillance, la France a prévu une enveloppe de 5 milliards d'euros d'ici à 2025 pour renforcer ses capacités d'observation et de renseignement.
Quelques mots rapides de la météo du jour. Il fera beau aujourd'hui, quelques orages sur le sud-est, 12 à 22 degrés du nord au sud. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40. Alors nous l'évoquions hier dans le journal Jacques, le dernier rapport de WWF fait état d'un effondrement des populations de vertébrés et d'une forte dégradation des écosystèmes sur notre planète. Vous en parlez dans le journal des idées ce matin, puisque ce rapport préconise une réglementation européenne qui interdirait l'importation de produits ayant contribué à la déforestation.
Oui, oui. Dans La Croix, Yann Laurence confirme que si l'on veut lutter contre la déforestation dans le monde, l'enjeu de nos importations est crucial. Le directeur du programme biodiversité à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, rappelle que toutes importations confondues, on estime que l'Union européenne est responsable de 10% de la déforestation mondiale. Pour produire davantage de viande rouge, mais surtout blanche, porc, volaille, que l'on nourrit avec des protéines issues du soja, on remplace la forêt par des cultures intensives dévastatrices pour la biodiversité. L'objectif serait donc l'autonomie protéinique du continent, produire la nourriture des animaux d'élevage en Europe. Le modèle existe déjà pour les biocarburants qui ne peuvent être produits ou importés que s'ils engendrent la déforestation. Cela pourrait se faire dans le cadre de la stratégie biodiversité 2030 de la Commission européenne. Catastrophisme, collapsologie, résilience, il y a toujours eu différents courants dans la pensée écologiste et c'est encore vrai, sans compter ceux qui évoluent jusqu'à se renier. Simon Blin en donne un bon exemple dans les pages idées de Libération. Michael Schellenberger, passé de l'alarmisme climatique à l'anti-catastrophisme et qui s'en prend désormais à l'hystérie, entre guillemets, des écolos radicaux. Lauréat en 2008 du Green Book Award et désigné héros de l'environnement par le Time, ce militant précoce est devenu écologiste à 16 ans en lançant sa première collecte de fonds pour le Rainforest Action Network avant de batailler pour la sauvegarde des derniers séquoias anciens de Californie. Il vient de publier chez Harper's Collins Apocalypse Never, pourquoi l'alarmisme environnemental nous fait du mal, où il dénonce l'hystérie écologiste qui, selon lui, serait responsable de phénomènes de dépression et d'anxiété, notamment chez les plus jeunes, résume Simon Blin, qui précise que le propos est agrémenté d'une centaine de pages de notes en tout genre, académique, médiatique, un vernis savant, sur ce qui s'apparente davantage à une entreprise idéologique et à un véritable retournement de veste, en particulier sur la question du nucléaire, pourtant prévisible après qu'il ait co-signé le manifeste de l'écomodernisme, courant de pensée prônant une forme de pragmatisme environnementaliste une sorte de troisième voie entre les climato-sceptiques et les tenants d'un récit apocalyptique favorable aux solutions technologiques pour résoudre les problèmes climatiques. En France, Schellenberger est peu connu, si ce n'est grâce à l'hebdomadaire Le Point, qui avait notamment organisé un dialogue avec Pascal Bruckner. Le Point qui publie cette semaine un entretien avec Jared Diamond, revenu de la collapsologie, dont il fut pourtant l'un des apôtres avec son livre de 2006, Effondrement, en anglais Collapse. Le géographe à l'université UCLA de Californie sort le 17 septembre chez Gallimard un livre au titre plus nuancé, Bouleversement, où il défend la thèse de la résilience appliquée à la politique des États-nations. Il faut selon lui s'attaquer solidairement à quatre problèmes, le changement climatique, le gaspillage des ressources, les inégalités et le nucléaire militaire. S'il estime que les démocraties ont un avantage sur les dictatures dans leur capacité à sortir des crises du fait de leur culture du compromis, il s'inquiète à cet égard de la situation aux États-Unis. À égale distance du catastrophisme et de la résilience, Catherine et Raphaël Larère publient chez Premier Parallèle un essai sur l'aveuglement catastrophiste de la collapsologie. Le pire n'est pas certain. Ils entendent en dénoncer l'imposture et comprendre les raisons de la séduction qu'elle exerce sur les milieux écologiques. La collapsologie se présente comme une science, elle puise ses arguments dans la théorie des systèmes complexes et s'appuie sur la masse de données scientifiques réunies depuis des dizaines d'années pour évaluer la situation environnementale. Or, c'est précisément leur imprévisibilité qui caractérise les systèmes complexes. Ce grand récit qui table sur des expériences isolées permettant d'adoucir la chute et qui lui préexiste largement, l'agroécologie, l'écoféminisme, village en transition, présente un défaut majeur, son innocuité politique, car c'est en politisant l'écologie que l'on peut envisager des solutions d'action collective. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Aujourd'hui, vous revenez sur l'incendie dans le camp de Moria à Lesbos et c'est également sur l'échec de la solidarité européenne sur la question migratoire.
Oui, cette nuit encore, des milliers de demandeurs d'asile ont passé la nuit dehors sur l'île de Lesbos, sans nourriture, sans couverture, sans prise en charge. Et si France et Allemagne ont annoncé qu'elles participeraient à une initiative conjointe pour accueillir 406 réfugiés mineurs transférés hier en Grèce continentale, si la Commission européenne promet qu'il y aura dans les prochaines heures des bateaux financés par l'Europe pour secourir les migrants, eh bien de nombreuses questions restent sans réponse, dont celle du statut de ces camps d'enregistrement ou hotspots créés par l'Union européenne en 2015. Bonjour Virginie Guéraudon, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, en poste au Centre d'études européennes à Sciences Po Paris. Virginie Guéraudon, comment ça se fait qu'on ait toujours aussi peu d'informations sur ce qui s'est passé il y a trois jours au camp de Moria, à tel point qu'on lit parfois « le sinistre n'a apparemment pas fait de mort ».
Oui, alors c'est assez frappant. Il faut savoir qu'en fait, à un moment, tout le monde allait à Lesbos, hein, même Angelina Jolie et le pape François. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui livrent des témoignages, il y a des fois des réfugiés, mais en fait, les journalistes ne sont plus bienvenus depuis, à partir même de 2016. Hein. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu très très vite un récit officiel porté par le gouvernement grec, hein, le ministre de l'immigration et même le Premier ministre, avant même la fin de l'incendie, en disant ce sont des migrants qui sont responsables, qui ne refusaient le confinement suite à des tests Covid-19. Alors qu'en fait, on n'en savait rien et le lendemain, il y a eu d'autres incendies. Donc on voit, il y a vraiment un problème d'information, même s'il y a des témoignages sur place. Je pense qu'on veut à la fois, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à cacher, j'ai envie de dire, effectivement, dans ce camp de Moria.
Et on en sait d'autant moins que ce camp a été fermé depuis le début de la crise sanitaire. Pendant près de 6 mois, les ONG disaient que c'était une folie d'ailleurs.
Oui, alors en fait, il faut savoir donc oui, à partir en mars pourtant, l'Union européenne avait même donné des fonds pour qu'il y ait plus de personnes qui enregistrent et qui les demandeurs d'asile dans les camps. La Grèce a décidé que à cause du Covid, il fallait fermer ses camps. Il y avait un couvre-feu, donc les gens ne pouvaient plus sortir. Et ça, c'était en fait un problème sanitaire, puisqu'il y a 2 ou 3 médecins dans ce camp de plus de 12 000 personnes. Et donc les gens devaient aller à l'extérieur pour aller dans des dispensaires médicaux sur l'île, par exemple.
2000 médecins pour, oui, on a 20 000 à peu près personnes. C'est un camp qui était prévu pour 2800 personnes à l'origine. Il faut rappeler, Virginie Guerodon, ce que c'est que Moria, quel est son statut?
Oui, alors, parce qu'on dit un camp, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, en fait. On sait ce que c'est à peu près qu'un camp de réfugiés du HCR. Je pense que par rapport à Moria, dans un camp du HCR, on attend, hein, les gens vivent en 17 ans en moyenne dans les camps du HCR ou en Afrique.
17 ans.
Mais, ouais, mais en fait, au moins, j'ai envie de dire, il y a un minimum d'infrastructures, hein, éducatives, sanitaires. Alors qu'à Moria, on voit que la situation humanitaire était absolument déplorable. Et ça a été, de nombreux rapports l'ont rappelé, avec des enfants en détresse qui s'automutilaient, avec, puis vraiment, c'est-à-dire pas d'accès à l'eau potable, pas assez de soins. Donc je dirais c'est presque pire qu'un camp de réfugiés officiel du HCR. C'est officiellement un hotspot, et ça j'y reviendrai, mais ça veut dire aussi...
Allez-y.
C'est un camp, alors, dans le jargon, c'est un camp d'enregistrement et de tri. Mais on va trouver des gens donc qui vont être enregistrés, c'est-à-dire qu'on va prendre leurs empreintes digitales, ils vont être enregistrés dans le système qu'on connaît, hein, qui est le système européen de l'asile, de Dublin, etc. Et puis il y a ceux qui sont en attente ensuite d'être relocalisés, un autre mot du jargon pour dire en fait envoyés dans un autre pays européen que la Grèce. Et puis enfin ceux qui sont en attente tout simplement d'expulsion, de reconduite à la frontière. Mais en fait il y a très très peu de reconduites, en particulier vers la Turquie, qui était une des idées initiales quand ces hotspots ont été créés.
Surtout en ce moment, voilà, avec donc, les tensions Grèce-Turquie. Bien
exactement.
Sûr.
Mais donc c'est vraiment d'un point de vue juridique, c'est pas encadré. C'est une sorte de prison, mais à la fois, j'ai envie de dire, avec plus d'insécurité que dans une prison. Parce qu'il y a beaucoup de policiers et autour du camp, hein, pour empêcher les gens de sortir. Les Nations Unies avaient dit c'est une zone de confinement forcé, bien avant que le mot confinement soit utilisé quotidiennement. Et puis effectivement, avec les tensions avec la Turquie, les gens ne sont pas reconduits.
C'est une zone de confinement, comme disait le HCR, mais ce n'est pas un camp fermé comme ces camps que la Grèce voudrait construire ou voudrait créer, notamment au nord d'Athènes. Ça ressemblera à quoi, ces camps-là, comme Malakassa, par exemple, au nord d'Athènes?
Alors oui, un camp fermé, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc ça ressemblerait plutôt à ce que nous, on connaît comme les centres de rétention administrative en France. Et là, pour le coup, je dirais ceci, ça annoncerait la couleur dès le départ. Il faut savoir qu'ils ont essayé de construire un nouveau camp à Lesbos, mais les habitants, certains des habitants qui ne veulent plus en fait que Lesbos soit justement cette zone d'attente européenne, ont même attaqué, enfin, ont manifesté contre les personnes qui apportaient des matériaux de construction, pour vous donner une idée de la tension aussi locale.
Et on a bien compris aussi que ce n'était pas qu'un problème grec, c'est bien ce camp Moria, un hotspot européen, bien que la politique migratoire grecque se soit considérablement durcie depuis l'élection du premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis. Virginie Guiraudon, ce gouvernement grec, il décrivait récemment encore la situation migratoire dans ces camps comme une réussite. C'est quoi? C'est juste parce que le nombre d'arrivées a diminué, mais pourquoi d'ailleurs?
Alors le nombre d'arrivées a diminué en fait par rapport à 2015-2016. Et il y a une...
Et on se réfère toujours à ces
années-là. Mais à partir déjà de 2018, il y a énormément d'arrivées. Et sans parler de ce qui s'est passé fin février, début mars, quand Erdogan a dit vouloir rouvrir ses frontières. C'est pour ça que je parle d'un récit officiel, hein, parce que c'est aussi le récit européen. On a signé un accord avec la Turquie en mars 2016. Les gens ne passeront plus donc de la Turquie à la Grèce. Et c'est juste le temps en fait de relocaliser, avec les guillemets, ces personnes-là. Et je sais que cette émission s'appelle « Les enjeux internationaux », mais même si le gouvernement grec a bien sûr son discours, il faut savoir qu'un hotspot, c'est vraiment un camp européen. Ouais. C'est financé à 75% ou plus par l'Union européenne. Donc, c'est des agences européennes qui sont sur place. Donc c'est, j'ai envie de dire, ça se passe en Grèce, mais ça nous concerne vraiment tous.
Et c'est ce que l'Allemagne essaye de rappeler à ses partenaires européens en disant qu'il faut répartir les migrants de Moria entre pays de l'Union européenne. Est-ce qu'elle sait, l'Allemagne, qu'elle va pouvoir obtenir du soutien? Pourquoi est-ce qu'elle en obtiendrait aujourd'hui alors qu'elle n'en a pas obtenu les années précédentes?
Oui, alors en fait, depuis 2015, c'est là où on a, en fait, il y a eu vraiment cette pierre d'achoppement sur un programme qui était un programme, oui, de distribution avec une clé de répartition, pour employer le jargon européen encore, qui a échoué. Là, il se trouve que l'Allemagne assure la présidence de l'Union européenne.
Ça peut changer quelque chose quand on préside l'Union européenne? Est-ce que pour autant on n'en est plus convaincant?
Déjà, non seulement il y aura toujours les mêmes, j'ai envie de dire, dans les pays de l'Est qui seront contre, mais même j'ai vu des déclarations, par exemple, des Pays-Bas qui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à aider. Donc c'est difficile de savoir ce qui va se passer, sachant que même l'Allemagne est un petit peu ambiguë, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient aider cette fois-ci, mais à la fois dans le programme de la présidence allemande, ils veulent créer des centres d'enregistrement et de tri hors de l'Union européenne, avant que les gens arrivent dans l'Union européenne.
C'est ça le pacte pour la migration que la Commission européenne doit présenter à la fin du mois. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu ce qui se dessine? Le principe de solidarité obligatoire, par exemple, est-ce qu'il a fait son chemin, Virginie Guiraudon?
Alors le pacte, il faut savoir que quand on dit pacte, ça c'est très grandiloquent comme terme, et généralement on met dedans le florilège de ce qui existe déjà. Donc il ne faut pas s'attendre du tout à beaucoup de nouveautés, comme le pacte mondial sur les migrations d'ailleurs, qui ne faisait que reprendre en fait ce qui existait déjà dans les textes. Et d'abord le pacte a été repoussé, il aurait dû être présenté déjà il y a un certain temps. Donc on voit qu'ils n'ont pas encore trouvé au niveau de la commission, un consensus auprès des 27. Hein.
Alors qu'Ursula von der Leyen disait vraiment que ce serait le sujet emblématique de son mandat, mais bon, elle est là depuis un an.
Alors peut-être que ce qui s'est passé, cet incendie à Moria, va lui donner une sorte de levier pour dire, regardez, il faut trouver une solution.
Alors quoi, par exemple, modifier les règles de Dublin, on en parle tout le temps, c'est un serpent de mer, ces règles qui délèguent la responsabilité de l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli et qui donc pose problème aux pays du sud de l'Europe, nécessairement, c'est la porte d'entrée. Est-ce que ça c'est sur la table, la réforme de...
Alors justement, ils savent qu'ils n'arriveront pas à réformer Dublin. Donc en fait, l'idée, c'est que on va plutôt se concentrer sur les États volontaires, les quelques États, 7, 8, 9, et non pas 27, qui, eux, veulent avancer. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des fois de la coopération renforcée pour pouvoir avancer. Donc d'avoir plutôt un mécanisme où quand il y a une arrivée, au lieu d'attendre que la France dise « je vais en prendre 30 », le Portugal va en prendre 50, que ça soit organisé. Mais c'est pas une réforme de Dublin.
Voilà, et pour l'instant, la France s'est dite prête à prendre sa part, mais quelle part? Elle n'a donné aucun chiffre pour l'instant. Merci beaucoup Virginie Guiraudon d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le samedi sur France Culture, petite musique sur l'oreiller pour se réveiller, Caroline Brouet.
Et ce samedi, une petite musique avec un Everest musical en compagnie d'un des plus grands pianistes mondiaux. Il a joué pour le président Barack Obama, le pape François ou encore la reine Elisabeth II, donné des concerts à guichets fermés aux quatre coins du globe, joué devant des milliards de téléspectateurs. Il vient d'enregistrer un double album des variations Goldberg de Bach. C'est un événement. Lang Lang sera mon invité dès 7h10.
Les matins du samedi, dès 7h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture, partenaire du hors-série Le Point, la bibliothèque idéale des philosophes. Quels sont aujourd'hui les auteurs et les ouvrages incontournables? Naïfs ou mal informés, nous pensions que la liste réduite à 30 noms ferait aisément consensus. Mais c'était oublié qu'en posant cette question à un philosophe, nous ouvrions la boîte de Pandore des interrogations. Le hors-série Le Point, la bibliothèque idéale des philosophes, en kiosque actuellement. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour ce matin Guillaume, le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est déclaré contre le Tour de France.
Oui, alors il l'a qualifié en substance de machiste et de polluant, ce qui a suscité moult réactions, parmi lesquelles certaines consistaient à pointer la contradiction qu'il y aurait à vouloir intensifier la pratique du vélo dans sa ville, et alors même que le Tour de France est justement emblématique de la petite reine. Mais
En réalité, pour moi, la remarque du maire de Lyon révèle les guerres internes au monde du vélo, Julie. Il n'y a plus un vélo, mais des vélos. Le cyclisme est devenu un peu comme le trotskisme. Vous en réunissez trois, il y a quatre manières de pédaler. Alors en plus, comme il y a désormais plus de cyclistes que de trotskistes, pour des raisons que je fais pas vous expliquer tout de suite, parce que ça prendrait longtemps, eh bien ces différences finissent par s'étaler au grand jour. Il suffit de regarder une piste cyclable pour voir à quel point on a affaire à des différences irréconciliables. Vélo électrique contre vélo dit musculaire, vélo hollandais de droite contre vélo de randonnée de gauche, vélo de course prétendument dominant contre vélo VTT résistant. Pendant très longtemps, l'aristocratie, la dictature du pavé, vous choisirez, était incarnée par les fixies. Vous savez, le fixie, c'est un vélo sans frein ni dérailleur, pas évident à utiliser. L'animal ne freine pas, il dérape. Le fixie, c'est un peu le péril gel. Il témoigne du fait que dans un monde à base de principes de précaution, de masques, de gel hydroalcoolique, il est encore possible de ménager une place au risque. Mais maintenant, il y a pire que le fixie, Julie, les pédales automatiques qui n'ont rien à voir avec des pédales électriques. Les pédales automatiques sont destinées à être utilisées avec des chaussures spéciales, des chaussures de cycliste qui solidarisent le vélo et le dit cycliste en accrochant les pieds aux pédales, un peu à la manière des fixations de ski. Alors évidemment, c'est très dangereux. Si vous ne déchaussez pas, si vous ne détachez pas vos pieds des pédales avant de vous arrêter, la gravité fait son office et vous chutez. Une chute qui, en milieu urbain, peut provoquer des petits dommages corporels et de gros dommages psychologiques. S'habiller pour courir le Tour de France et chuter comme un débutant, ça peut suffire à égayer un boulevard. Oui, mais voilà, si vous voulez être un aristo du deux roues, tenir le haut du pavé, vous devez avoir des pédales automatiques, le vélo, ou bien vous accrochez à lui, ou bien mieux vaut décrocher.